de Noir, deuxième partie d'émission. Et on va continuer notre émission sur les romans policiers qui, comme on le dit dans certains films, décoincent les zygomatiques. Première partie, on vous avait parlé d'un auteur américain. Et bien là, on va vous parler, enfin, je vais vous parler, parce que ce n'est pas du tout le cas de Jacques, mais moi, je vais vous parler d'un roman français. C'est un roman de Francis Misiot, La santé par les plantes. Non, on n'est pas dans la phytothérapie. C'est un roman qui est initialement paru en 2000, et ça fait 20 ans, à la Série Noire.
C'était son premier, il me semble bien.
Oui, c'était son premier, c'était vraiment une révélation à cette année-là. Un écrivain français qui fait dans le burlesque, le déjanté, on n'avait pas vraiment l'habitude. Alors oui, il y avait les anciens séries noires avec cet argot qui faisait rire et sourire. On avait des auteurs aussi très drôles. Mais voilà, dans le déjanté, dans, je dirais, l'absurde, ben, c'était un peu une nouveauté. Je vous ai dit qu'il est sorti en 2000. À moins que vous ne le trouviez au fond de votre bibliothèque, l'original à la Série Noire, il est épuisé. Mais vous pouvez peut-être vous rabattre sur deux rééditions. L'une qui a été en 2010, si je ne m'abuse, c'est aux éditions Après la Lune.
Ça fait donc déjà 10 ans.
Ça fait 10 ans, et oui, on égrène. Et puis on va encore passer 5 ans. Et c'est donc à la collection chez les éditions ActuSF, Quantef, hein, en 2015, qu'il est reparu pour la dernière fois, il y a 5 ans. Il y a des chances qu'on puisse le trouver.
Mais Francis Misiot, dans mon souvenir, en tous les cas, il n'en a pas fait tant que ça, des romans, c'est un peu dommage.
Non, comme tu le dis, malheureusement pour nous, car il y avait beaucoup de promesses dans le style, les idées, la verve. Mais après quelques écrits aux éditions Baleine, quelques nouvelles aussi, bien Francis Misiot s'est tourné vers d'autres activités il y a une dizaine d'années. Voilà, donc il nous reste quelques écrits dont on peut encore profiter.
Bon, alors, La santé par les plantes, si je me souviens bien, ça commence... Alors, on va faire chic. Ça commence par un nabab sur un trône, c'est bien ça?
Oui, alors je vais traduire ton argot, puis on a commencé un petit peu dans l'argot. Je traduis, c'est un patron de laboratoire pharmaceutique qui réfléchit alors qu'il est aux toilettes. Le nom de ce patron, Gatsby le Grand, évidemment, on est dans les références... Tout le temps. Ce pauvre homme souffre...
Pas pauvre homme, puisqu'il est riche.
Il est richissime, même. Il souffre de constipation. Et il veut trouver le remède miracle. Il faut savoir aussi que ces laboratoires ont la panacée, soi-disant, du remède contre la constipation. Mais c'est pas si vrai que ça. Et apparemment, d'après un autre personnage assez ubuesque, ce remède se retrouverait dans une molécule qui... est dans un petit arbrisseau, je prends mon souffle, cet arbrisseau s'appelle l'Alocasuarina portuensis et ça pousse en Australie. Mais évidemment, il faut que l'intrigue prenne, il faut se dépêcher, il n'en resterait que 2 exemplaires. Et encore, on a du pot, il y a un mâle et une femelle. Mais évidemment, ils ne sont pas proches l'un de l'autre. À partir de cette idée, on tombe tout à la fois dans l'univers des Marx Brothers et des Monty Python réunis.
Et un peu des frères Cohen.
Oui, c'est vrai. Il y a quelques scènes un peu gore, on va dire. Un peu gore.
Mais jusque-là, guerre de polar.
Non, c'est sûr. Là, l'argumentaire, pas de polar. Mais disons que la recherche de ce végétal miraculeux va évidemment engendrer bien des convoitises. Et que la course-poursuite qui s'engage va mettre en scène des personnages douteux digne d'un polar. Vous savez, tous les personnages secondaires qu'on voit arriver petit à petit dans certaines comédies policières des années 70-80. Il y a des découvertes pseudo-scientifiques qui sont exploitées n'importe comment. Les deux arbrisseaux, comme j'ai déjà dit, trop éloignés l'un de l'autre pour être fécondés. La course à ceux qui veulent rapprocher les deux arbustes par tous les moyens possibles et inimaginables. Personnages hauts en couleur, mais évidemment à la mine patibulaire. En gros, oui, une course à l'échalote, digne d'un roman policier, mais d'aventure.
Et il y a pas mal de personnages à la mine patibulaire, tu le disais, mais il y a aussi une certaine quantité d'animaux qui sont pas mal non plus.
Oui, il y a plein d'animaux. Un célèbre perroquet à 2 crêtes et touffe rouge. On ne sait pas où Francis Misiot a été chercher ça, mais effectivement, dans le livre, il existe. Ou le Doryphore bousier lubrique. Alors, ah, le bousier, oui, oui, c'est connu. Le Doryphore, c'est très connu.
Les lubriques oui, aussi.
Les lubriques, oui, mais moins chez les insectes. Ou alors...
bon, mais je, il n'y a pas encore eu assez d'études.
C'est ça, c'est ça. Faudrait, on n'a pas faudrait... encore fait. Et donc, je vais terminer cette chronique par la présentation du perroquet. Vous allez voir, c'est une belle métaphore de nos sociétés. La vie du perroquet vert à deux crêtes et tout frouche sous les ailes n'est pas de tout repos. L'évolution ayant voulu que le mâle ne puisse plus voler depuis des siècles, à cause des énormes touffes rouges qui entravent les mouvements de ses membres, la femelle, elle, vole très bien. Le perroquet vert à deux crêtes et touffes rouges entre les ailes souffre cruellement de cet handicap inopportun. En effet, parce qu'il est belliqueux et exploiteur du travail des autres oiseaux de la forêt équatoriale, ceux-ci lui cèdent une partie de leur récolte d'insectes et de baies. Son existence, dans le plus pur respect du struggle for life, n'est qu'un perpétuel combat destiné, sinon à l'alimenter et perpétuer l'espèce, du moins à lui conserver son statut de dominateur au sein de la canopée, soit le biotope complet que représente en lui-même ce monde largement inexploité par l'homme qui est l'inextricable cime des arbres de la forêt amazonienne. Or, le statut de supériorité du perroquet vert à deux crêtes et touffes rouges sous les ailes sur le restant de l'agent ailé passe par le prestige supposé qu'il aurait en matière de domination de l'espace aérien. Comme les mâles perroquets verts à deux crêtes et touffes rouges sous les ailes sont les seuls à savoir qu'ils ne peuvent pas voler depuis des siècles, ils passent leur temps à dissimuler leur incompétence aux autres oiseaux, parfois de façon malhabile. Comme je l'ai dit dans la première partie d'émission, toute ressemblance avec une société réelle ne serait que fortuit et mal intentionné, et c'est tout à fait le cas. Voilà, un petit peu de musique.
Un petit peu de musique, donc il fallait qu'on reste dans le burlesque.
Le déjanté.
Le déjanté. Donc nous avons choisi Chanson plus Bifuré, dont toutes les chansons sont burlesques et déjantées, et on a pris celle qu'on préfère, qui s'appelle Moi je fais
Moi,
la
je
vaisselle.
Fais la vaisselle, c'est bête, mais je suis fait comme ça, c'est bien. Je la veux vraiment belle, sinon. Eh bien, je la fais pas. Tout en douceur, en moins d'une heure, super. Et je frotte si fort que les plats s'en souviennent. Je la trempe d'abord. Ça fait moins de problèmes. Attention. Si je pouvais la faire briller de tous côtés, si je savais où la ranger, je ne veux pas la voir sur un écoutoir. La vaisselle doit être essuyée aussitôt sorti de l'eau. Moi je fais la vaisselle.
Eh bien, pas moi.
Je suis fait comme ça.
Tant pis pour toi.
Je la veux vraiment belle.
C'est un peu gras.
Sinon, je ne mange pas.
Moi j'y crois pas.
Tout en douceur. Mieux que ma sœur. Si je pouvais la faire briller de tout côtés, si je savais où la ranger,
des traces de
je ne veux pas la voir.
Il y en a
sur
des tas.
Mes gouttoirs
et les poils.
La vaisselle doit être essuyée aussitôt. Enfin, je vais la faire briller de tout côté. C'est ce que je sais où la ranger.
C'est pas gagné.
Jetez-moi ce soir.
Y a peu
ce sale dégoutoir.
La
vaisselle doit être essuyée aussitôt. Sors.
Alors, les plantes, nous en a fait voir plein de pays et plein de couleurs. Et là, Jacques, avec toi, on repart aux États-Unis.
Oui, avec Fantasia chez les Ploucs ou Le Bikini de Diamant, qui est le plus fameux roman et surtout le plus drôle de Charles Williams. Charles Williams, né en 1909 au Texas, il se suicidera en 1975. C'est pas très gai, et pourtant il a écrit ce roman qui est complètement hilarant. Le Bikini de Diamant, c'est le titre original, Diamond Bikini. Fantasia chez les Ploucs, c'est le titre de la première traduction de Marcel Duhamel en 1957.
À la série noire, donc.
À la série noire. Marcel Duhamel était sûrement un grand directeur de collection, mais un traducteur pas forcément des plus précis.
Ben, surtout qu'il fallait qu'il aille vite.
Il fallait qu'il aille vite, et il truffe ses romans américains, d'argot parisien, mais bon. Si vous pouvez avoir près de chez vous la nouvelle traduction aux éditions Gallmeister, faite par Laura Derajinski, c'est mieux. Car en plus, c'est la version intégrale, vu qu'à l'époque, les séries noires, il fallait qu'elles rentrent dans le moule, et donc là, il manque quelques pages. Mais bon, si un vieux folio, une vieille série noire ou un carré noir, il a été réédité en plein de fois...
Il y a plein de rééditions. Hein.
...traîne dans votre bibliothèque, celle de votre grand-père, eh ben, vous pouvez lire ça. Ça marche encore très bien, même dans la première traduction. Quelle est l'histoire? Billy et son papa arrivent dans la ferme de Sagamore Noonan, dans le comté de Blossom. Sagamore, c'est l'oncle de Billy. Et Billy, c'est le narrateur du récit. Billy, il a une dizaine d'années, il vit avec son père, qu'il appelle Pop, quand il ne fait pas un séjour chez les dames de l'assistance. Voilà ce qu'il nous dit au début, sur ce roman, puisque c'est lui qui raconte. « Oh, ça a été un été chouette, pour sûr. Comme dit Pop, vivre à la ferme, c'est très sain, et on peut franchement pas trouver une plus saine que celle de l'oncle Sagamore. Il y avait un lac où on pouvait pêcher de vrais poissons, j'avais un chien, et il y avait un tas de chasseurs de lapins avec des mitraillettes. Et puis... Mademoiselle Harrington aussi. Elle était rudement sympa. C'est elle qui m'a appris à nager. Voilà, c'est comme ça que Billy résume son été chez Sagamore, et donc en fait, le roman. Et il a presque tout dit. Mais je vais quand même vous en dire un petit peu plus. On est déjà dans un comté sec, un peu comme dans les romans de Jay Kingson. C'est-à-dire un comté où on n'a pas le droit de boire de l'alcool et encore moins d'en fabriquer. Mais Sagamore, évidemment, ne se gêne pas. Et pour dissimuler l'odeur de l'alambic qui est bien cachée, il tanne des peaux de vache dans la cour de la ferme, ce qui dégage une odeur infecte. Voilà, de nouveau ce qu'en dit Billy. Les baignoires,
qui est le narrateur de l'histoire, nous le rappelons.
Et donc le neveu de Sagamore. Les baignoires étaient en plein soleil juste à côté. Il y en avait 6, des baignoires alignées le long de la maison. Quand je me suis approché, j'ai dû me boucher le nez à nouveau. Il y avait quelque chose dedans, c'était certain, je n'arrivais pas à deviner quoi au début. On aurait dit une eau brunâtre avec des saletés et des grosses bulles épaisses qui flottaient à la surface. Et puis j'ai vu qu'il y avait des choses dans l'eau. J'ai ramassé un bâton, je l'ai fait tourner dedans, jusqu'à pour remonter un morceau. C'était une peau de vache. Les poils commencent à tomber. Quand je l'ai relâché, l'horreur a fait des bulles, c'était ignoble. Je reprends. Non loin de là, il y a les hommes du shérif qui surveillent, espérant en vain surprendre Sagamore en flagrant délit. Soit de consommation d'alcool, soit de fabrication. Non loin de là non plus, il y a un vieux prédicateur qui est de la famille de Sagamore. Il fabrique une arche pour échapper au déluge que Dieu va lancer pour punir tous ces fornicateurs qui sont dans la région. Une routine s'installe tranquillement entre les flics, Sagamore, Pop et Billy, jusqu'à l'arrivée d'une grande caravane étincelante tirée par une grosse voiture. Dedans, un homme a l'air sérieux mais avec une bosse sous la veste. Et dans la caravane, Mademoiselle Harrington, une superbe créature blonde, fort peu vêtue. C'est là que tout bascule. Ceci dit, on a déjà bien ri jusque-là. Le jeune Billy le dit au début, Miss Harrington va lui apprendre à nager. Et pour ce faire, elle va mettre un maillot de bain. Lequel maillot de bain est composé d'une seule pièce, unique, la culotte recouverte de diamants. Il va s'en suivre une véritable fantasia, pour faire allusion...
Au premier titre du roman français.
Le lecteur se pose néanmoins une question. Mais pourquoi donc un bikini, puisque la Miss n'en porte qu'une seule partie? L'autre question est, pourquoi des chasseurs de lapins coiffés d'un Panama et armés de mitraillettes cherchent à trouver Miss Harrington? Une chasse à l'homme, une chasse à la femme en fait, déguisée en un petit bijou de bonne humeur, finement corrosif. 256 pages de pur délire, Charles Williams s'amuse comme un fou à nous balader dans ces collines, les collines d'un petit patelin de l'Amérique profonde, avec tous les clichés qu'il revisite à sa façon. le shérif, les bootleggers, les bagnoles. Mais tout en les amusant, il dénonce l'hypocrisie de ces gens car en fait, presque tout le monde aurait envie de boire un coup, sauf quelques femmes de la Ligue de Tempérance. Et puis, le petit plus de ce roman, c'est la narration par un gamin. Billy qui voit les choses à la fois de sa hauteur et avec la candeur d'un garçon qui ne comprend pas tout, mais qui se doute très bien qu'il est chanceux d'apprendre à nager avec une belle dame presque nue comme Miss Harrington, qui a un très beau tatouage qui s'enroule autour de son sein droit.
Un tatouage, comme,
un tatouage, voilà.
Comme dirait Pierre Dac dans un célèbre sketch.
Exactement. Donc vous voulez vraiment passer un bon moment en ce moment, ben, lisez donc ce Bikini de Diamant. Et si vous avez une liseuse, vous pouvez très facilement trouver la nouvelle traduction sur des sites en ligne, sans aller sur les gros mastodontes qui n'ont pas de charte éthique. Vous pouvez par exemple essayer leslibraires.fr, c'est un groupement de librairies indépendantes qui vend aussi des livres en e-pub.
Oui, et on n'a pas parlé, Fantasia chez les Ploucs, je pense que chez beaucoup de nos auditeurs, ça rappelle un film.
Voilà, le film de Gérard Pires, 1971, avec Jean Yann, avec Lino Ventura et avec Mireille Dard.
À la plastique.
Voilà. Malheureusement, les adaptateurs en ont fait une pochade, en fait, où, bon, certes, on rigole, hein, il y a presque toute l'intrigue, mais il manque un peu de sucre, quoi, pour...
Ça doit être le sucre qui manque dans l'alcool.
Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est dommage. Et puis, il n'y a pas le point de vue de l'enfant, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est moins plaisant.
C'est dispensable. Il vaut mieux se rabattre sur le livre. Il y a une suite au livre ?
Il y a une suite au livre qu'on peut tout à fait trouver. Alors, la celle-là, elle est pour l'instant que dans la série noire. Peut-être elle sera retraduite chez Gallmeister, sait-on jamais, qui s'appelle « Aux urnes les ploucs », dans sa traduction donc, de l'époque, qui est un peu la suite et qui est tout aussi délirante, bien que moins grandiloquente, quoique c'est pas évident. Voilà, puisqu'on a beaucoup parlé de bootleggers, de trafiquants d'alcool, nous allons écouter un petit extrait d'un album qui s'appelle American Moonshine and Prohibition Song, donc tout à fait adapté. Le groupe s'appelle The New Lost City Ramblers, et le morceau qui s'impose, Bootlegger Story, c'est un peu l'histoire de Sagamore.
Well, it's true that the lawmen don't like me. They have drove me away from my still. And of course I had to leave there running through the wildwood and over the hill. So it's meet me tonight, oh pal, meet me. Meet me out in the moonlight alone. For I have 10 gallons of good whiskey, must be sold by the light of the moon. So you see that the officers don't like me. They have drove me away from my door. If I had my time to go over, I would steal 10,000 gallons or more. So it's meet me tonight, oh pal, meet me. Meet me out in the moonlight alone. For I have 10 gallons of good whiskey, must be sold by the light of the moon.
J'espère qu'on vous aura donné des moments de petits plaisirs en ces temps un peu moroses, ces temps même très moroses. Donc on vous dit, selon la formule consacrée, et Dieu sait si elle prend son sens, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs, dans ces cas-là, il vaut mieux en avoir.
Voilà, donc, et on espère vous retrouver très 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 vite. Au revoir.